Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce samedi 31 décembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Avertissement du haut général iranien aux alliés d'Israël dans la région. La puissance des forces armées iraniennes est dévastatrice. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, loi US d'autorisation de la défense nationale, Téhéran condamne des contenus iranophobes. Israël se voue à l'anéantissement par nature, déclaration du porte-parole de la diplomatie iranienne. Et puis l'ONU demande à la Cour internationale de justice de se prononcer sur l'occupation israélienne. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La diplomatie iranienne condamne l'adoption et la signature de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice financier 2023 des États-Unis qui comprend des contenus négatifs reflétant la poursuite des politiques hostiles, provocatrices et interventionnistes des États-Unis contre la République islamique d'Iran, une incitation à l'iranophobie et une tentative de la sécuritisation qui cherche à présenter la République islamique d'Iran comme un enjeu et une menace sécuritaire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dénonçant cette action iranophobe américain, a souligné « Certaines allégations infondées concernant les activités régionales de la République islamique d'Iran évoquées dans cette loi manifeste la poursuite du rôle destructif et déstabilisateur de l'Amérique dans la région du Golfe Persique et en Asie occidentale. Ces fausses accusations répétitives évoquées dans la loi concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran interviennent alors que c'était l'administration américaine lui-même qui, en se retirant unilatéralement en mai 2018 de l'accord nucléaire de 2015, a violé le pacte et la loi internationale du Conseil de sécurité qui l'endosse et que c'était la République islamique d'Iran qui a contribué à le préserver, bien qu'elle ne jouisse pas de tous ses droits liés au plan global d'action conjoint sur le nucléaire, a-t-il déploré. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié d'exubérantes les allégations avancées par le premier ministre israélien contre la République islamique. Nasser Kanani a déclaré que Benjamin Netanyahou tente de se forger une identité et de redorer le blason du régime israélien illégitime et factice. Le diplomate iranien, s'attardant sur le fait que le régime israélien souffre depuis 70 ans d'une crise d'identité marquée par un bilan sanguinaire de génocides, de pillages, de déplacements forcés et de nombreuses autres violations des droits de l'homme, a déclaré que ces atrocités sont le résultat de politiques erronées en complicité avec les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays européens qui soutiennent le régime. M. Kanani a souligné que la Palestine et sa cause sont indestructibles et que le régime israélien est voué au déclin. Netanyahou a prêté serment en tant que premier ministre israélien jeudi lors d'un nouveau retour à la tête d'un cabinet d'extrême droite. Dans son discours au Parlement, il n'a pas manqué d'afficher son hystérie anti-iranienne, accusant de nouveau l'Iran de chercher à développer une prétendue bombe nucléaire, une allégation que Téhéran a démentie catégoriquement à plusieurs reprises. S'adressant à la première réunion de son cabinet, Netanyahou a décrit trois grandes missions pour sa coalition, dont la première est l'arrêt du programme nucléaire iranien. Il a prétendu que le PGAC, l'accord nucléaire de 2015, est un accord horrible, selon ses mots, car il a permis à l'Iran, essentiellement avec l'approbation internationale, de développer un arsenal nucléaire et essentiellement atomique pavé d'or, avec des centaines de milliards de dollars d'allègement des sanctions. Le cabinet de Netanyahou a également promis d'étendre les colonies illégales en Cisjordanie occupée et de poursuivre d'autres politiques anti-palestinienne. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution demandant à la Cour internationale de justice de donner son avis sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël. La résolution sollicite un avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'occupation, de la colonisation et de l'annexion des territoires palestiniens par Israël. Il demande également un avis sur les mesures illégales prises par Israël pour modifier la composition démographique et le statut de la ville sainte Al-Quds occupée. Sans surprise, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et la Grande-Bretagne faisaient partie des États occidentaux qui ont voté contre la résolution de l'ONU. La Russie et la Chine ont voté pour. L'ambassadeur palestinien à l'ONU a salué les pays qui ont soutenu la résolution contre Israël. D'autres autorités palestiniennes ont également salué la résolution onusienne en faveur de la Palestine. Le porte-parole du président de l'autorité autonome, Mahmoud Abbas, a déclaré qu'il était temps que le régime israélien soit tenu responsable de ses crimes contre les Palestiniens. Un autre haut responsable a déclaré que le vote de l'ONU reflétait la victoire de la diplomatie palestinienne. La Cour mondiale s'est déjà prononcée sur le différend palestinien en 2004 lorsqu'elle a statué qu'une barrière de séparation israélienne était illégale. Israël a rejeté cette décision, alléguant que le verdict était politiquement motivé. Selon les médias, une base militaire américaine dans le nord-est de la Syrie a été attaquée à la roquette. Selon les informations, plusieurs explosions ont été entendues après que la base américaine de la province de Deir ez-Zor a été prise pour cible par des roquettes. En réponse, l'armée américaine a dépêché des avions de chasse et fait voler des drones de surveillance au-dessus de la zone. Il n'y a aucun mot sur d'éventuelles victimes ni dégâts. La base militaire ciblée est située près du champ pétrolier syrien Al-Omar, qui est sous le contrôle des forces américaines. L'installation militaire a subi plusieurs attaques à la roquette au cours des derniers mois. La Syrie considère la présence militaire américaine sur son sol comme une violation de sa souveraineté. La compagnie pétrolière du Yémen dit que la coalition d'agression dirigée par l'Arabie saoudite a saisi quatre navires citernes en route vers la ville portuaire clé du pays, Houdaïda. La société a déclaré que les navires avaient été saisis après avoir été inspectés à Djibouti, où toutes les expéditions sont contrôlées dans le cadre d'un mécanisme des Nations Unies. La société a qualifié cette décision de piratage, affirmant que le Yémen tenait les Nations Unies et la coalition responsables des conséquences. La firme a également appelé à une pression internationale pour la libération des navires. La coalition d'agression confisque fréquemment les navires citernes à destination du Yémen. À cela s'ajoute une pression accrue sur l'approvisionnement en nourriture et en médicaments qui a aggravé le sort des millions de Yéménites qui souffrent déjà en raison de la guerre menée par l'Arabie saoudite contre leur pays. Les Yéménites affirment que la coalition dirigée par Riyad a pillé plus de 13 milliards de dollars de pétrole du pays entre 2016 et 2021. Riyad et certains de ses alliés ont lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen qui fait également l'objet d'un blocus aérien, terrestre, maritime, voire médiatique depuis 2015 dans le but de rétablir un régime fantoche pro-saoudien. Ce conflit a généré la pire crise humanitaire et de développement épouvantable au monde selon l'ONU. Direction le Venezuela, l'opposition vote pour mettre fin à la présidence intérimaire de Juan Guaido, marquant la fin d'un stratagème politique audacieux soutenu par les États-Unis dans lequel Guaido a été reconnu comme le président légitime du pays dans le cadre d'une tentative infructueuse d'évincer le président légitime du pays, Nicolas Maduro. L'opposition au Venezuela a voté vendredi 30 décembre pour dissoudre le gouvernement intérimaire formé sous leur ancien chef, Juan Guaido, principal rival du Parti socialiste au pouvoir et autrefois chouchou de l'establishment américain. Tenant son vote sur un appel Zoom, l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition a décidé de réorganiser son mouvement vendredi avec 72 législateurs votant en faveur de la dissolution de la législature contre seulement 29 opposés. Le mandat de Guaido, à la tête de l'Assemblée ainsi que sa présidence par intérim, déclarée en 2019 avec la bénédiction des États-Unis, doivent désormais prendre fin le 5 janvier. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Avertissement du général Rachid aux alliés d'Israël. La puissance des forces armées iraniennes est dévastatrice. Le commandant de la base centrale de Khatam al-Anbiya, déclarant que la puissance hybride des forces armées iraniennes sera dévastatrice contre l'ennemi, a mis en garde tout pays qui coopère avec le régime sioniste pour mener la sécurité nationale de l'Iran. Les bases qui sont à la disposition de ce régime contre l'Iran seront attaquées par nos forces armées, a-t-il promis. Le général de division du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, Gholam Ali Rachid, s'exprimant ce vendredi 30 décembre en marge des exercices conjoints Zolfarar 1401 de l'armée de la République islamique d'Iran, a déclaré: le quartier général central de Khatam al-Anbiya, l'état-major général des forces armées, l'armée de la République d'Iran et le corps des gardiens de la révolution islamique sont tous unanimes sur le fait que le régime sioniste est la première priorité en tant que menace pour la sécurité nationale de l'Iran. Il a ajouté, le régime sioniste, bénéficiant d'un soutien tous azimuts, représente une menace destructrice pour la sécurité militaire de tous les pays de la région, dont l'Iran, et les actions menaçantes de ce régime contre les intérêts et la sécurité nationale de l'Iran sont évaluées avec cette hypothèse que les États-Unis en sont conscients et que ces agissements sont sous la coordination et le soutien même des États-Unis. Certes, la réponse des forces armées iraniennes sera ferme et décisive, a-t-il dit. Le commandant de la base centrale de Khatam al-Anbiya mettant en garde tout un pays qui coopère avec le régime sioniste pour menacer la sécurité nationale de l'Iran et qui lui fournit une base ou un dispositif à déclarer. Ces bases, ces points et l'origine de l'agression et de l'attaque contre l'Iran, qui est le régime d'occupation de Quds, seront tous la cible de nos forces armées. Le général de division Rachid a poursuivi, en menant ces exercices, nous voulons que nos ennemis sachent que nous sommes prêts et qu'en cas d'erreur de calcul, nous leur infligerons certainement un coup très lourd qui transformera leurs actions tactiques initiales en un échec stratégique. Nous sommes la génération de la guerre et nous avons appris la guerre par la guerre. Nous espérons que l'ennemi ne cherchera pas à tester notre volonté et notre puissance, a-t-il encore averti.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, 223 Palestiniens ont été tués en martyrs depuis le début 2022 dans les exécutions sommaires par le régime sioniste et bien sûr des villages démolis depuis le temps. Alors, les jeunes sont devenus un véritable cauchemar pour le régime sioniste. Et les opérations anti-israéliennes se voient nettement augmenter au cours de ces derniers mois. Et voilà que nous allons parler de cela avec des experts des questions internationales. Mais sachez également que le Parlement d'Oman a décidé d'intensifier le boycott à l'encontre du régime sioniste dans différents plans, surtout économiques et politiques, mais également sportifs et culturels. Alors, en guise de soutien à la cause palestinienne, le Parlement d'Oman a décidé de ne pas normaliser ses relations avec le régime sioniste. À présent, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues et on sera avec vous juste après. Restez avec nous, je vous prie.
Les chiffres officiels montrent qu'Israël a placé plus de 600 enfants palestiniens en résidence surveillée en 2022 malgré les critiques internationales. La Commission palestinienne pour les affaires des détenus et ex-détenus a affirmé dans un communiqué lundi 26 décembre que le régime israélien force même certains enfants à rester dans des maisons en dehors de leur ville, déclarant que l'assignation à résidence prive les enfants de leur droit à l'éducation et crée un sentiment constant d'anxiété, de peur et de privation. La commission a ajouté que cette décision laisse également de graves effets psychologiques sur les enfants et leurs familles. Israël a été critiqué à plusieurs reprises par des groupes de défense des droits de l'homme et des ONG pour avoir assigné à résidence des enfants palestiniens. Ils disent que c'est une violation du droit et des accords internationaux. La commission palestinienne a également affirmé que la méthode de contention avait été principalement utilisée contre les enfants et les jeunes dans la partie orientale de la ville occupée de Rots, en Cisjordanie. Les autorités israéliennes notent le communiqué ont recours à cette méthode car elle permet au régime d'occupation de contourner ses propres lois qui interdisent l'emprisonnement des enfants de moins de 14 ans. Lorsqu'ils sont assignés à résidence, les mineurs palestiniens sont obligés de porter un bracelet de surveillance à tout moment et ne sont pas autorisés à se rendre à l'école ou même dans une clinique sans être accompagnés d'un surveillant, a indiqué l'organisme. Pendant cette période, le tribunal israélien examine leur dossier jusqu'à ce que les procédures judiciaires à leur encontre se termine et qu'une décision soit rendue, ce qui peut prendre quelques jours ou jusqu'à un an au plus. Cette période n'est pas comptée comme faisant partie de la peine proprement dite, qui est ensuite prononcée contre l'enfant. D'ailleurs, certains enfants sont retirés de leur domicile familial et placés en état d'arrestation dans une autre maison en dehors de leur ville qui appartient à un parent ou à un ami. Dans ce dernier cas, la famille est obligée de louer la maison périphérique. Dans les deux cas, les parents sont souvent contraints de vendre des biens ou d'utiliser leurs économies pour déposer d'importantes sommes d'argent au trésor du tribunal pour assurer l'application des conditions de libération de leur enfant, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa, citant la commission.
Eh bien, voilà pour le reportage. Dans ce contexte, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux invités, en commençant par Ghada Houbouala, géopolitologue depuis Beyrouth. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Presse TV, ainsi que, bien entendu, c'est un plaisir d'avoir une discussion avec votre invité, professeur Luc Michel.
Justement, M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, bonjour.
Bonjour, monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Bonjour, madame, ma collègue.
Tout le plaisir est pour nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans ce contexte, ma première question va s'adresser à Ghada Houbouala depuis Beyrouth. Donc, et nous parlons bien sûr des crimes commis par le régime sioniste à l'encontre des Palestiniens et surtout des jeunes enfants palestiniens qui n'en finissent pas. Que pensez-vous, je vous prie?
Que penser? Bien entendu, cela viole. Pour répondre directement à votre question, c'est une violation criante des droits de l'homme, mais aussi c'est une violation criante de droit humanitaire international qui s'applique durant les conflits armés. Selon justement ce droit, c'est-à-dire le droit humanitaire international, il y a des lignes rouges à ne pas violer, à savoir ne pas bombarder que ce soit tout ce qui est civil, hôpitaux, écoles, etc., mais en plus ne pas attaquer ou agresser la population civile, en l'occurrence surtout les femmes et les enfants. Mais pour revenir à cette escalade de la violence, il faut revenir un petit peu en arrière parce que nous avons assisté, si vous le permettez, à une année, je parle de 2022, que nous allons dans quelques jours, abandonner. Il y a une résurgence de la confrontation palestinienne armée avec les autorités de l'occupation israélienne et l'entité sioniste a lancé une campagne militaire depuis plusieurs mois pour l'anéantir. Et ces dernières semaines, nous avons assisté à une forme d'intensification notable de la répression israélienne contre les Palestiniens de Cisjordanie qui, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, a visé à la fois les civils ordinaires dans leur maison, leur village, sans compter bien entendu les combattants et groupes de résistance armée. Parallèlement, ce qui était nouveau durant cette année, c'est que des colons armés ont terrorisé les communautés palestiniennes de Cisjordanie et qui souvent étaient en présence et sous la protection de l'armée d'occupation israélienne. Donc la répression actuelle et la résistance qu'elle suscite font partie d'une campagne plus vaste qui dure depuis des mois et qui se poursuit jusqu'à cette heure où je vous parle, où les derniers rapports font état d'une confrontation nouvelle sur le terrain. Mais cette campagne qui dure depuis des mois, elle vise à réprimer certes la résistance palestinienne croissante, en particulier la résistance armée, qui, c'est ça la nouveauté de 2022, a connu une résurgence dans certaines régions de Cisjordanie. Les manifestations de soutien, vous vous souvenez que je pense en mois d'octobre ou de septembre, il y a eu 4 Palestiniens ont été tués en octobre. Il y a eu Oussama Mahmoud Adawi, 17 ans, qui a été tué par les forces israéliennes par une balle qui a visé son abdomen à l'extérieur du camp des réfugiés d'Aroub, également en Cisjordanie. Donc, ce qu'on assiste actuellement, ce qu'on assiste actuellement, c'est qu'on a des raids quasi nocturnes, on a une répression meurtrière des manifestations, on a des politiques de punition collective, on a une violence croissante des colons. Tout ça n'a pas contribué à étouffer la résistance palestinienne. Les rapports y font état de manifestations et de confrontations quotidiennes avec les forces d'occupation israéliennes à Al-Quds, en Cisjordanie, et persistent. Et il y a eu, il ne faut pas oublier, c'est très important, que de nouveaux groupes de résistance ont surgi, comme le groupe de résistance palestinien qui est basé à Naplouse, qui est baptisé la Tanière des Lions, et qui continue de gagner la faveur du public, car il revendique la responsabilité de l'augmentation des opérations Absolument. Armées contre les positions militaires israéliennes en Jordanie. La question est très complexe, dans le sens où 2022 est une année qui est riche justement en répression et en actes de résistance. Je n'ai pas le temps de rappeler aux téléspectateurs l'opération Briser la vague que les Palestiniens ont réussi à contrer. Mais je termine par cette phrase. C'est tout comme l'armée d'occupation israélienne n'est pas confinée à la géographie, la confrontation palestinienne ne l'est pas non plus. C'est ça, justement, le titre de l'année 2022. Et le mois d'août a été le témoin d'une nouvelle dynamique entre Gaza et Cisjordanie, où, contrairement à la dernière décennie, Gaza est devenue une force de médiation pour désamorcer la résistance en Cisjordanie.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Luc Michel. M. Luc Michel, l'année 2022 était particulièrement meurtrière, donc chez les Palestiniens, et des crimes commis, d'innombrables crimes commis par le régime sioniste à l'encontre, justement, des Palestiniens. Mais, d'un autre côté, comme l'a dit Mme Gada Houbala, les opérations anti-israéliennes ont nettement augmenté au cours de ces derniers mois et Israël a reconnu son incapacité à y répondre. Que pensez-vous, je vous prie?
Et il faut comprendre ce qu'est la nature du régime israélien. Il y a quelques jours, un dirigeant du Hamas a accusé Israël d'être un État néo-fasciste. L'extrême droite israélienne est un des rares États au monde ou est issu directement de l'extrême droite fasciste des années 30. C'est en effet, elle est issue de ce qu'on appelle le courant révisionniste sioniste, c'est-à-dire les partisans de Jabotinsky, le fascisme israélien, qui était un grand admirateur de Mussolini, qui a collaboré avec Mussolini et également avec le Troisième Reich de Hitler. Des gens comme Shamir et aujourd'hui Netanyahou sont les héritiers directs de cette extrême droite fasciste. Netanyahou prend régulièrement la parole dans des meetings derrière d'immenses portraits de Jabotinsky. La théorie de cette extrême droite est déjà en deux points. Ce sont des partisans du grand Israël, du Dinal-Euphrate, et d'autre part des partisans de ce qu'on appelle les murailles d'acier d'Israël, c'est-à-dire qui fait du régime israélien un régime reposant sur la force militaire de ses armées. C'est cela qu'il faut constater. Ce qui est inacceptable dans le monde entier, en particulier en France, en Italie ou en Grande-Bretagne, est parfaitement toléré et accepté dans ce qui sort du fascisme israélien.
Oui. Gada Houbala, M. Luc Michel a donc profondément expliqué d'où est sorti ce régime sioniste et pourquoi ces crimes contre des innocents palestiniens, mais le mutisme occidental. Pourquoi on voit les Occidentaux, les États-Unis, donc, observent un silence de mort à l'égard des crimes commis au cours des décennies à l'encontre des Palestiniens?
Est-ce qu'ils sont d'accord? Bien sûr, l'entité sioniste, c'est une invention de colonial, c'est une invention post-coloniale, si on peut s'exprimer ainsi, des États-Unis avant de la France et de la Grande-Bretagne. Et donc, pour assurer leur présence dans cette région, une présence militaire, etc., elle se traduit à travers justement l'entité sioniste. Mais ce qu'il faut souligner dans votre question, c'est que en fait le projet était de tenter d'imposer une forme d'entité artificielle en tant que modèle d'État démocratique à suivre par tous les États du Moyen-Orient. Or, cela n'a pas eu lieu. Premièrement, parce que c'est une entité qui a été inventée et qui a occupé un autre pays. Donc déjà, au niveau du droit international public, cela est contraire au droit international public. Cela s'inscrit dans le cadre d'une occupation. Deuxièmement, parce que là, comme l'a bien rappelé le professeur Luc Michel, la nature même, et là il est important que vous posiez la question plus tard, on en parlera plus tard, c'est actuellement il se passe quelque chose de très grave pour l'entité sioniste, mais très positif pour nous en tant qu'arabe, est-ce qu'il y a un bouleversement ou c'est une forme de coup d'État à l'intérieur de l'entité sioniste. On en reparlera plus tard avec tout ce que Netanyahu est en train de faire de transfert de pouvoir. Bref, mais pour revenir à votre question, c'est que ce qu'a tenté de faire, et c'est ça également qu'il faut, dans ce sens, il faut résumer 2022, c'est que la résistance palestinienne en 2022 a montré qu'elle s'est développée de résistance armée à résistance populaire non armée et qui s'est étendue à l'engagement, elle s'est étendue aux Palestiniens de la diaspora et qui sont en exil. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le projet de l'entité sioniste de fragmenter l'identité palestinienne a été remis en question de manière ininterrompue cette année. Je parle de 2022. Certes, l'année 2022 était l'une des plus meurtrières en termes de violence des colons pour les Palestiniens depuis 2005. Et certes, les Palestiniens sont confrontés à une forme, je ne sais pas, de kaléidoscope, de répression. Mais parallèlement, la résistance palestinienne, elle s'est développée et à chaque fois, elle est en train d'innover en termes d'actes de résistance ou de lutte. Malheureusement, on ne peut pas oublier le rôle de l'autorité palestinienne dans la répression de la résistance, malheureusement.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Bah, écoutez, madame a tout à fait raison. Il y a eu une tentative des Israéliens d'étouffer la résistance palestinienne. Quand j'étais jeune militant dans les années 1970, en Europe, il y avait d'immenses manifestations à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Berlin, en soutien à la résistance palestinienne. Au XXIe siècle, on a vu cette résistance étouffée. Il n'y a pas eu de grandes manifestations. Et en 2018, 2019, 2020 et maintenant, on a pu renaître la résistance palestinienne. De nouveau, de grandes masses soutiennent la résistance palestinienne et la volonté d'Israéliens d'étouffer la résistance palestinienne, c'est un échec. Mais ce qui explique le soutien, en particulier en France et en Europe au régime, et aux États-Unis au régime sioniste, c'est l'existence de puissants lobbies politiques pro-israéliens. L'AIPAC aux États-Unis, le CRIF en France, qui interviennent directement dans la politique américaine et française. Et évidemment, la présence de ces lobbies, leur capacité de mobilisation électorale, et en particulier de recueillir des fonds électoraux, dans le domaine électoral évidemment, elle explique ce soutien occidental au sionisme.
Monsieur Luc Michel, c'est vrai que ce lobby sioniste est très fort en ce qui concerne l'Occident, mais dans la région du Moyen-Orient, peut-être que certains pays comme les Émirats arabes unis ou bien l'Arabie saoudite donc, se soumettent à ce lobby, mais il y a d'autres pays comme le Parlement d'Oman qui a récemment déclaré qu'il ne souhaitait aucunement normaliser ses relations avec le régime sioniste et allait d'intensifier le boycott à l'encontre de ce pays. Et d'autres pays vont certainement suivre le modèle d'Oman. Que pensez-vous, M. Luc Michel?
Ben écoutez, la Coupe du Monde au Qatar, elle a démontré que le soutien de ce qu'on appelle la rue arabe à la cause palestinienne était encore total et absolu, presque un siècle après la tragédie de 1948. C'est cela la constatation. Tous les régimes arabes qui ont voulu normaliser avec Israël sous la pression du lobby sioniste aux États-Unis, de Donald Trump, de Jared Kushner, eh bien, ces pays ont échoué complètement. On a même vu, évidemment, le Qatar même qui était l'un de ces pays, confronté à la révolte de sa population. C'est cela la caractéristique de la vitalité de la cause palestinienne aujourd'hui, en 2023.
Gada Oubala, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie, face à ces propos?
Bah oui, on a déjà parlé à ce sujet concernant la Coupe du Monde. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Louis Michel. Je dirais même plus, je dirais que il y a concernant la cause palestinienne, il y a un avant la Coupe du Monde de Qatar et il y a un après. Que ce soit au niveau de l'opinion publique israélienne ou bien au niveau de l'opinion publique des pays qui ont normalisé officiellement leurs relations avec l'entité sioniste. Et ceux qui n'ont pas encore officialisé cela, maintenant, en réaction avec justement ce qui a ressurgi durant la Coupe du Monde arabe, c'est-à-dire que toutes les populations du monde arabe, qu'il s'agit, même le peuple saoudien, même ceux qui sont, qui ont déclaré qu'ils étaient qu'il soutenait Mohammed ben Salman. Mais quand on posait la question concernant la cause palestinienne, c'est une ligne rouge, allant jusqu'à dire que nous ne reconnaissons pas la présence, l'existence de cette entité sioniste, alors que le commentateur israélien tentait d'arguer en disant que mais vos régimes ont normalisé avec nous. Et malgré cela, ils ont dit clairement sur le, devant des milliers de personnes qui étaient en train de regarder, qu'ils ne reconnaissaient pas. Donc, au niveau de la normalisation, si vous voulez, le projet de normalisation au niveau de l'entité sioniste avec les régimes arabes, eh bien, il s'arrête au niveau des régimes arabes. Il n'a pas réussi s'infiltrer au niveau des peuples arabes. On a comme exemple, de toute façon, le peuple égyptien qui a signé un accord avec justement l'entité sioniste. Et malgré cela, certes, il y a des Israéliens qui passent des vacances en Égypte, mais au niveau du peuple de l'Égypte, du peuple égyptien, la normalisation n'a pas eu lieu. Donc on considère toujours au niveau de la population arabe, au niveau de l'opinion publique arabe, on considère que c'est une entité qui est artificielle, qui n'a pas lieu d'être… de toute façon, elle ne peut pas continuer. Et c'est là où justement le choc a été ressenti par l'opinion publique israélienne. Je dis l'opinion publique israélienne parce qu'au niveau de l'établissement militaire, les responsables militaires israéliens ont clairement fait savoir, devant les médias israéliens, que nous ne sommes pas étonnés de la réaction des populations arabes. Mais tout simplement, nous avons caché cette vérité à l'opinion publique israélienne. Donc, voilà.
Luc Michel, que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que… Qu'est-ce qui était plus important, la normalisation chez les dirigeants ou bien le peuple qui déteste l'entité sioniste?
Écoutez, les régimes arabes qui ont trahi la cause arabe après les années 1980 et se sont ralliés à l'impérialisme américain ont montré qu'ils étaient des régimes illégitimes et artificiels. Le rejet de ces régimes, de leurs accords avec Israël par le peuple arabe, évidemment, c'est un désaveu profond. Le mouvement, ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, initié par Trump, qui ont cru qu'on pouvait imposer une solution artificielle politique à la rue arabe, évidemment. Elle a démontré complètement son identité. Aujourd'hui, comme on dit en français, le roi est nu. C'est-à-dire qu'il y a un peuple arabe et une rue arabe qui rejettent la collaboration avec Israël et des régimes arabes minoritaires et artificiels qui ont échoué à imposer à leur peuple cette solution.
Absolument. Gada Oubala, pour terminer donc cette émission, le débat, les jeunes Palestiniens qui sont devenus un véritable cauchemar pour l'entité sioniste, est-ce que ça va continuer et les opérations anti-israéliennes vont augmenter dans les jours et les mois à venir?
Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Benny Gantz a fait savoir que le nouveau gouvernement israélien pourrait provoquer une escalade sécuritaire. Donc la question, non. Je pense que la conscience des Palestiniens, leur attachement à leur terre, elle se poursuit de génération, elle est transmise de génération en génération. Et avec ce qui s'est passé durant la Coupe du Monde de 2022, l'opinion des jeunes Arabes de soutien, ils ont exprimé leur soutien à la cause palestinienne, cela a donné un boost justement et un espoir pour les jeunes Palestiniens. Donc au niveau de la jeunesse palestinienne a été, si comme vous voulez, on peut dire comme ça, soutenue par la jeunesse arabe, et les deux vont se nourrir mutuellement, et cela bien entendu va renforcer le désir, la détermination de la jeunesse palestinienne à poursuivre leur lutte. Et donc plus la lutte sera intense, plus le régime de l'entité sioniste va tenter de réprimer de manière encore plus violente cette lutte.
Absolument. Madame le docteur Ghada Oubala, géopolitologue depuis Beyrouth, merci beaucoup d'avoir intervenu dans l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Effondrement du mythe fondateur du capitalisme. Deuxième partie. Le mythe est essentiellement le fondement paralogique et paradoxal que dispensent les chefs erratiques et laïques des sociétés en credo à la collectivité pour la conduire selon leurs propres intérêts de classe ou de caste. D'où la vie rationnelle des hommes en société est menée par suggestion selon des principes échappant à toute critique parce que présupposés comme axiomatiques nécessairement et naturellement surlogiques transcendant la raison. Le mythe fondateur du capitalisme, la mobilité sociale par le travail et la propriété que tous peuvent acquérir s'ils travaillent, est totalement démenti vu la population de rudes travailleurs minés par la pauvreté au quotidien. Le mal diabolique, la malignité maléfique des autorités économiques et de leurs suppôts politiques, et cette impudence idéologique des médias mainstream et de leurs spécialistes qui voudraient faire croire le contraire. Vivant de crises successives, le capitalisme contemporain bascule dans la xénophobie officielle des États et la haine des groupes considérés non productifs, haine que des secteurs bourgeois entretiennent chez les couches défavorisées des classes moyennes et les masses contre les dix groupes coupables. La seule vertu dans cette société étant de générer des profits aux dieux maudits du crédit et du commerce, garde donc à qui ose refuser la prostitution généralisée. L'homme est rendu l'objet premier par la production et ultime par la consommation de l'infamie collective qui fait de l'économie malsaine du système le commencement et l'aboutissement de l'existence des esclaves modernes inavoués. Ainsi, plein et hanté des misérables rudiments de cette idéologie, les humains se partagent les saletés comme des colifichets sacrés et veillent répressivement que leur prochain en soit imbu. Dans la horde infernale des esclaves décorés ou en haillons, épris de l'ordre qu'ils isolâtrent, il n'y a pas de place pour la différence qui refuse de consommer pour consommer. Une telle altérité contestataire et marginalisée, soupçonnée soit de crime, soit de folie contre l'ordre nécessairement moral, sain et transcendant, inscrit dans la mécanique cosmique selon l'idéologie dominante. En fait, le crime, dans sa factualité, peut se définir comme toute désobéissance constituant de la lèse-autorité. Et quelle pire lèse-autorité que le refus d'insertion coupable de l'individu ou du groupe dans l'ordre idéologique accepté du grand nombre. Nous disons insertion car il n'y a pas d'intégration dans un ordre appartenant à quelques plutocrates qui asservissent tous par le crédit et le travail éreintant pour la subsistance. Tout refus ou inadaptation à l'ordre est impitoyablement proscrit par les geôliers et bourreaux d'asile qui sont nombre de nos bons citoyens mièvrement complices par aliénation de leurs profiteurs dans nos sociétés policières et mollement fascistes sans en avoir l'air. Il n'y a pas de justice quand la justice sociale est bafouée par les lois et le droit dans un système juridico-légal voué à garantir et pérenniser par toutes sortes d'artifices les privilèges des oligarques autoproclamés maîtres de tout bien et ressources planétaires, ce qui les fait également maîtres des vies et du temps des hommes. La chute du capitalisme, malgré ses ostentations et triomphalisme médiatisé, est prévisible à moyen et à long terme, vu que même le mythe de la propriété se dément dans la fragilité du statut de propriétaire à l'échelle des classes dominées, vite dépossédées à la moindre crise façonnée par des banquiers pour se faire renflouer ou grossir leurs caisses par les politiciens. Toutefois, tout est à créer pour mettre en place un ordre plus juste, car les révolutions rouges et tyranniques du passé, avec leur nomenclatura, leur goulag et gabégie de gestion, elles non plus ne tiennent la route dans l'itinéraire des vrais amis de la liberté militant pour la vraie libération sociale des peuples. Le mythe est souvent d'essence religieuse, sinon de portée sacrée, alors que la fable et le conte relèvent de l'imaginaire laïque et profane qui se contente de décrire les caractères, les tempéraments et les mœurs avec un dessin moralisateur. Quand vient l'immoralisme économique des oligarchies et que sévit la chute du mythe fondateur de leur système, les fables s'imposent alors en oracle pseudo-scientifique pour les spécialistes soudoyés et la propagande éhontée de la presse. Une suprême ironie des intelligences et un dédain extrême du droit des peuples à comprendre et savoir ce qui les regarde dans leur vie quotidienne. Nous disons que si le sens suprême, l'ontologique, le divin, le transcendant, reste à l'échelle de la conscience spirituelle des individus pour la félicité ou la perdition, le sens social consiste à démythifier le vol autorisé qu'est le capitalisme. Le sens social et son appropriation demeurent donc le combat du sens terrestre contre l'absurde dans ce qui est chose humano-sociale et non-transcendance cosmique inatteignable. En attendant, les maîtres de l'économie capitaliste bricolent une société d'ersatz où le substitut, le postiche, par la surenchère de la ruse médiatique et autres, s'impose comme réalité dans l'étau et la démesure extrême du mensonge systématique au cœur d'une population décivilisée qui s'offre le luxe de vivre de bobards officiels et se permet volontiers de se passer de la vérité. Le capitalisme n'est ni une institution ni une personne, mais une logique, déclare Michel Beau. Nous disons qu'il est une méga-institution plurale qui englobe toutes les institutions systématiques et méta-institutions de réaction et de correction humaine, une Weltanschauung corruptrice du rapport intime à soi chez l'individu ou le groupe social qui, par lui, s'évalue en monnaie plutôt qu'en substance. méga-institution sinistre qui prédétermine ainsi jusqu'aux réflexes sociaux les plus égoïstes et les plus méchants des individus à travers la plus vile arrogance induite par la plus débile mégalomanie de la consommation. Démythifié, le capitalisme actuel n'en garde pas moins ses airs de mystère, non démystifié, qu'il est grâce à l'essentialisme de classe qu'il ancre dans le crâne des individus. La démystification et le démantèlement des statuts de classe constituent le seul horizon possible de libération des hommes pour l'avènement d'une société sans classe, non d'égalité ontologique. Car les hommes, s'ils sont identiques en attributs, ne sont même pas naturellement égaux par leurs facultés, mais d'égalité effective, des chances et donc d'équité véritable et de mérite, où la justice sociale n'est pas qu'un mot, où l'exploitation sera abolie grâce à la disparition des classes et la dignité du moins douée des humains, du plus petit d'entre ses semblables, respecté parce qu'au cœur des préoccupations et des politiques adoptées et menées au nom de l'humanité de tous. C'était une étude de Camilo Timalbranche que nous vous avons présentée.
Thank you.